Est-ce que vous connaissez l'histoire du chat pamplemousse? Non, c'est pas une plaisanterie. C'est une véritable histoire. Je vous avoue que j'en ai entendu parler pour la première fois hier. Et pourtant, c'est une mascotte ici au Festival d'Avignon. Ce chat, ou plutôt cette chatte, est une locale. Près de 15 ans qu'elle sillonne la Cité des Papes. Que voulez-vous, rien de spécial. Elle mène une vie de chat, ses errances dans la rue, ses siestes au soleil, ses parties de chasse aussi. Mais elle fait parler d'elle. Pamplemousse aime se promener sur la scène de la cour d'honneur du Palais des Papes et à n'importe quel moment de la journée. Claude Amira, le régisseur de la cour d'honneur, celui qui donne, vous savez, le signal pour envoyer les trompettes de Maurice Jarre, m'en a raconté de belles hier. Par exemple, le soir de juillet 2013 où Pamplemousse a décidé de s'inviter sur scène aux côtés de Denis Podalydès. Lisant un texte très sérieux et suscitant le rire de public. Denis Podalydès ne comprenant pas ce qui se passait, craignant que sa braguette était ouverte, et non, c'était le chat Pamplemousse qui était là. Le soir aussi plus récent, c'était cette année où Pamplemousse s'est faufilé entre les jambes des acteurs d'architecture de Pascal Rambert. Attention, Pamplemousse cette fois-ci a musclé son jeu. Un critique s'est même fait flouer, il a pensé qu'elle faisait partie du casting. Le metteur en scène a alors été obligé de la confiner chaque soir pour éviter qu'elle ne vienne prendre la lumière des projecteurs. Pamplemousse a aussi porté le nom de Clémentine en référence au pape, c'est ainsi que l'équipe de la cour d'honneur l'avait baptisée. Appelez-la donc comme vous voudrez, une seule chose est sûre, pour beaucoup, elle est plus qu'un chat, c'est l'esprit de Jean Villard qui vient chaque année saluer le public du festival qu'il a créé. Alors si vous voyez un chat traîner par ici, une petite salutation pour Jean Villard.
France Inter, le Mac de l'été, Leïla Kadour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous avec la culture sur cette antenne du lundi au vendredi, histoire de vous parler de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, nous avons donc établi nos quartiers au Festival d'Avignon, en direct de la cour de l'ancienne université Pasteur. Une émission en public, je vous remercie d'être ici, avec les cigales, on peut applaudir, mais ouais, soyons fous à Avignon! Avec les cigales aussi en fond sonore et ce système très ingénieux de brumisateur qui m'hypnotise depuis tout à l'heure. À mes côtés, la metteuse en scène Blandine Savetier qui rythme tous les midis ce beau festival de son feuilleton L'Odyssée d'Homère. Bonjour Blandine, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Le comédien Romain Darol pour Phèdre, point d'exclamation, est aussi avec nous. Bonjour, on peut les applaudir. Allons-y.
Bonjour.
Et un troisième acolyte de cette programmation du festival IN est avec nous, Enzo Verde. Bonjour Enzo, vous mettez en scène Macbeth philosophe avec Olivier Py, on va en parler dans quelques instants. Finalement, c'est un peu la première fois que vous figurez officiellement dans le programme du IN de ce festival d'Avignon. Blandine, c'est quand on reçoit cette nouvelle, c'est inattendu, c'est une joie, c'est une crainte, tout est mélangé.
C'est une joie. Et parce que, bien sûr, c'est un défi à relever de mettre en scène un feuilleton de 13 heures avec 19 jours de répétition. Et après, on répète le feuilleton donc la veille pour le lendemain.
C'est très sport. Hein.
C'est un marathon avec des amateurs qui changent tous les 4 jours. Ce sont des amateurs... Donc c'est un mélange de professionnels et d'amateurs. Donc là, cette année, le défi aussi, c'était de travailler avec des amateurs qui n'avaient jamais fait de théâtre. Mm-hmm. Et puis un texte d'Homère, un poème, une épopée traduit par
Philippe
Jacotet. C'est une traduction de toute beauté, mais c'est aussi un poème, donc il faut pouvoir le tenir en bouche.
Romain Darol, vous, la première fois au Festival d'Avignon, qu'est-ce que ça vous évoque tout d'un coup? On annonce la nouvelle à tout le monde autour de nous, on fait comment?
Pas tout de suite, parce que quand même on est un petit peu intimidé. Et puis bon, effectivement, c'est très impressionnant. Hein. On l'apprend au fur et à mesure. D'abord, c'est un projet, d'abord c'est une idée, ensuite c'est un projet. Et ensuite, ça se concrétise grâce à la sélection suisse en Avignon et puis le Festival d'Avignon, enfin. Donc voilà, c'est toujours impressionnant.
Enzo Verde, vous travaillez au plus près avec Olivier Py. Le projet cette année vous a mené dans la prison. Donc là aussi, se dire qu'on fait officiellement partie d'un festival, c'est aussi un travail de lien, de réinsertion permanent.
Bien sûr, c'est extrêmement... on n'arrive pas à réaliser.
Ouais.
On travaille avec des détenus, on se dit que les faire sortir, c'est juste un rêve. Et je crois que Je suis toujours pas réveillé.
C'est vrai. Eh ben, on va en parler de ce rêve éveillé, de ces épopées, de cette odyssée à travers l'amour du théâtre, Phèdre point d'exclamation, du texte et puis aussi du voyage initiatique de l'odyssée d'Homère. Mais avant ça, pour commencer cette émission, on fait toujours un peu les choses à l'envers avec un questionnaire. La première fois.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
C'est pas la première, c'est la dernière. Blandine Savetier, la dernière fois que vous vous êtes levée à la fin d'une représentation pour applaudir, est-ce que vous êtes du genre démonstratif dans l'enthousiasme ?
Oui, quand je suis touchée au cœur, ouais. J'ai volontairement, enfin, je sais pas, c'est comme une impulsion, quoi. Mais la dernière fois... Oh là là, il faut que je réfléchisse.
Vous ne voyez pas un moment surgir de votre corps, vous lever, admirative d'un...
Je pense à un spectacle de Martaler.
Oui.
Mais j'ai envie de dire la première fois pour moi. Donc ça ne sera pas la dernière fois, mais la première fois où j'ai vu un spectacle de Pina Bausch. Donc je crois que j'avais 16 ans et ça a été un... Ça a été un choc et je pense que même c'est un spectacle qui m'a sculpté et qui m'a donné envie de faire du théâtre.
Romain, la dernière fois que vous êtes plongé dans une tragédie, étudié au lycée, à l'école, et que vous l'avez repassé en revue, alors on ne parle pas de Phèdre.
Hein. Ah oui, bah c'est vrai, j'allais dire Phèdre.
Mais non, non, ça j'ai pas le droit, facile. D'accord. Trop facile.
La dernière tragédie... Je dois avouer une chose, je suis un mauvais lecteur de théâtre.
Oh, mais c'est pas grave, vous pouvez tout
voilà,
nous confier.
Je préfère le faire.
Ouais, ouais.
Mais tragédie...
Pourquoi vous êtes un mauvais lecteur, vous dites ça?
J'avoue que j'aime beaucoup lire, je lis énormément, mais j'aime pas tellement lire le théâtre. C'est un défaut, mais voilà, il me manque une étape. Je le lis, mais pour le travail, vraiment, dans l'idée de le mettre, qu'il y aurait une étape ensuite. Ouais. Le théâtre dans un fauteuil de Musset, ça me parle pas tellement.
C'est
mais,
vrai.
Mais les textes de Musset me parlent bien.
Enzo, vous, la dernière fois que vous avez mis le nez dans un texte comme ça, un bouquin corné de l'époque du lycée qu'on retrouve en défaisant un carton.
Bérénice.
Et alors, est-ce que ça vous a inspiré tout d'un coup une sorte de joie où vous vous êtes dit, genre, j'ai souffert à l'école avec et c'est peut-être légitime encore aujourd'hui?
Alors, à l'école, je crois que ça m'avait pas tellement passionné. Mais j'avais pas trouvé l'école particulièrement passionnante. Mais c'est vrai que là, quand je me suis replongé dans Bérénice, il y a plein de choses qui ont ressurgi, des vers en particulier. Rome en son sang n'acceptera jamais de sang étranger. C'est tellement parlant aujourd'hui que forcément, du coup, comme c'est acte 2, scène 2, eh ben, on lit avec encore plus attention le reste.
Ouais. Et une question pour tous les trois. La dernière fois que vous vous êtes endormi au théâtre, que vous avez somnolé au théâtre, ça vous arrive ça ou pas? C'est pour essayer de bien comprendre aussi et dire au public que c'est pas très grave. Moi, personnellement, ça m'arrive très souvent. Et généralement, c'est signe que le spectacle est très bon. Si je m'endors un tout petit peu, pas une heure, hein, attention, on est d'accord. Romain, tenez.
Oui, ben moi, j'ai un souvenir qui me vient comme ça. C'était d'ailleurs, là, ça rejoint un peu la question d'un des beaux spectacles que j'ai aimé, parce que c'était Perturbation de Christian Lupa.
Oui.
Et je me rappelle m'être endormi à ce moment-là du monologue du prince au milieu. Je sais plus qui était ce comédien âgé, mais vraiment merveilleux. Et ça se finissait pas, et c'était tellement beau. Et je me suis endormi, je me suis réveillé, il continuait de parler. Je trouvais ça superbe.
Et vous, Blandine?
La dernière fois, je me suis endormie au théâtre. Oh là là, c'est difficile parce que j'ai comme ça
une petite somnolence. C'est rien de grave. C'est-à-dire qu'il fait souvent un petit peu chaud. On est assis dans le noir. On
Mais
est bien.
En fait, je trouve que c'est souvent très bon de dormir quelques secondes au théâtre parce que ça veut dire qu'on endort, on va dire, le cerveau de la raison.
Oui.
Pour ouvrir peut-être le cerveau de l'émotion ou de l'inconscient, en tout cas, de rentrer dans l'imaginaire. C'est amusant parce que je pense que la dernière fois où je me suis levée pour applaudir, il vient de me remettre en fait en tête le spectacle. C'était donc le procès, mise en scène par Christiane Lupa.
Mm-hmm.
Et j'étais extrêmement fatiguée. Je crois que j'ai un petit peu dormi, mais très peu. Et j'ai adoré ce spectacle, donc je me suis levée pour applaudir. Et c'est un spectacle que j'ai vu deux fois, parce que je l'ai vu à l'Odéon et également à Mulhouse. J'ai fait la route pour aller le revoir. Donc ça veut rien dire en fait de s'endormir au théâtre.
Et ben voilà, donc vous voyez, si on vous dit quelque chose, vous avez là une explication de Blandine Savetier en compagnie de Romain et d'Enzo, à savoir on ne culpabilise pas à l'idée de piquer un petit somme. C'est souvent les plus beaux spectacles qu'on ait vu. Vous, Enzo, votre dernier...
Moi, c'était pas au théâtre, c'était un concert de piano au festival de l'Orgue d'Anteron. J'écoutais du Mozart, il y avait les cigales, il y avait un petit vent frais et hop, un petit roupillou. Puis je me suis réveillé et j'étais bien en continuant à écouter du Mozart, c'était assez agréable.
Et voilà, on est heureux quand on dort un peu au spectacle. On évoquait l'enseignement des textes classiques. Romain Darol, vous allez devenir une star dans le milieu scolaire et pas que. On parle de dépoussiérer les classiques. Eh bien, il faut voir la performance que vous donnez, Romain. C'est tous les jours à la collection Lambert à 11h30 pour Phèdre. Point d'exclamation. Un projet très ambitieux. Quelle est l'ambition, justement, que vous êtes fixée pour ce projet?
L'ambition, c'est sûr qu'elle passe... Déjà, à travers une question de transmission, quelle qu'elle soit, que ce soit la transmission de ce texte classique de Phèdre, que ce soit la transmission d'une forme de joie qu'on essaie de transmettre au public, que ce soit la transmission aussi d'un sentiment de ce que peut être, je mets des guillemets, la tragédie, bien sûr, dans sa verticalité. Voilà un peu tout ça, essayer de créer une formule, une alchimie qui puisse se diffuser comme une huile essentielle vers le public.
Phèdre, point d'exclamation, mise en scène et adaptée du texte de Racine, vous l'avez reconnu, par François Gremaud. Pas de long discours, on écoute un petit extrait.
La tragédie se dénoue très souvent par la mort d'un ou de plusieurs protagonistes. Je ne vais, ma foi, pas vous le cacher plus longtemps. Effectivement, notre reine Phèdre meurt à la fin de la pièce. Mais que celles et ceux qui n'auraient pas encore lu ou vu la pièce se rassurent, d'autres personnages mourront d'ici la fin de la pièce. Voilà. Mais je ne vous dis pas qui, je ne veux pas vous gâcher le plaisir. Si tant est, bien évidemment, que l'on puisse avoir du plaisir à voir des personnages mourir sur scène, devant les projecteurs, le cœur ouvert tout en couleur. Vous connaissez la chanson.
Et il est mélomane, ce Romain Darol. C'est malicieux, c'est mené tambour battant. Il y a en effet cette envie pédagogique de transmettre, d'expliquer. Et puis il y a un rapport interactif avec le public. Vous êtes sur scène tel un enseignant ou un conférencier?
Oui, bien sûr. Oui, effectivement, le projet, la pièce change un petit peu chaque soir, chaque jour, en fonction même des réactions du public. Il y a des personnes qui n'hésitent pas à participer, à donner des réponses ou quoi, et je dois de fait les accueillir, ces éléments-là.
Oui, il y a une véritable interaction. C'est cette connivence qui est aussi assez étonnante. Vous n'avez rien comme décor. Vous avez une table, un livre. Et ça suffit.
Et c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, ouais.
Oui.
Et ça suffit pour emmener le public, parce que finalement, à travers le récit de la passion de Phèdre, cette passion, ces tumultes et ces tourments qui la dévorent, vous vous livrez une forme de déclaration d'amour au théâtre.
Oui, c'est vrai que ça peut tout à fait être vu comme cela. Oui, une déclaration d'amour au théâtre. Je pense que je peux allier François Gremaud, le metteur en scène, à ses propos, parce que pour tous les deux, c'est une déclaration d'amour, surtout à la pièce de Racine, à l'univers racinien, à ses personnages, et surtout cette forme classique extrêmement rigide, extrêmement rigoureuse, qu'on voulait prendre à pleine main comme ça et mettre sur un plateau à laquelle on voulait rendre hommage, effectivement.
Avec aussi ce point de vue, cette intention comique, parce que c'est pas simplement raconter Phèdre.
Oui, exactement, oui. C'est vrai que, bon, comme une sorte de ces dieux Janus, vous savez, à deux têtes, il y a l'idée, chez François, très nietzschéenne, de penser que la tragédie contient la comédie et inversement. Et donc, c'était un beau projet pour nous, l'idée que de transformer une tragédie en comédie, en tout cas, faire sortir la comédie de situation.
Oui.
Parler de la déclaration d'amour ou ces situations-là, et par là même retrouver, par derrière, comme par surprise, cette tragédie qui réapparaît.
Et l'un des ressorts de ce comic, c'est votre interprétation, c'est votre capacité à incarner un peu tous les personnages, à devenir un petit peu fou. Justement, il y a un personnage qui m'a particulièrement plu, parce qu'il a un accent du coin, forcément, c'est Enon.
Peu cher seigneur, quel trouble au mien peut-être égal, la reine touche presque à son...
son terme fatal.
Oui, moi j'imagine un peu du sud parce que ma grand-mère s'appelait Léone.
En veine à l'observer, jour et nuit, je m'attache, elle meurt, dans mes bras, de mal qu'elle me cache. Un désordre éternel règne dans son esprit, son chagrin inquiet l'arrache de son lit. Elle veut voir le jour, et sa douleur profonde m'ordonne toutefois d'écarter tout le monde. Elle vient, alors là, chasse Hippolyte te ramène et ils ne comprennent pas trop.
C'est un spectacle que je vous encourage vraiment à aller voir, parce que si vous avez été échoué sur les rivages du théâtre abandonné, eh bien Romain Darol sait vous récupérer et vous donner envie de lire, sans doute, ou en tout cas d'aller voir sur scène. Est-ce que c'est un projet qui peut être adapté à d'autres textes? Est-ce que c'est déjà dans l'idée de le faire, ou on veut pas multiplier l'expérience?
Je crois que sur d'autres textes, non, mais je crois pouvoir me permettre de dire que François a l'idée de faire un peu la même chose, mais la même idée avec deux autres figures féminines importantes, Gisèle dans le ballet classique avec une danseuse contemporaine et Carmen. Donc voilà, ça serait une sorte de trilogie. Carmen, la figure donc de l'opéra.
On est toujours sur France Inter, il est bientôt 18h30, on écoute le son du jour. C'est Vincent Delerme aujourd'hui qui nous accompagne au cours de ce festival d'Avignon avec La Chamade.
Le soleil, Sacramento, goudron fondu, l'après-midi, la voiture brûlante, le capot, sur le garçon, une fille s'appuie. Alors vouloir être à leur place, alors sentir mon cœur qui bat. Le motel Minnesota est sur les fleurs du couvre-lit. Dans 3 minutes, il entendra ses pas approchant dans la nuit. Juste vouloir être à leur place, juste sentir mon cœur qui bat. La chamade, la chamade, la chamade. Le drive-in dans l'Idaho, elle vient d'attraper la portière. À 23h, l'air est si chaud, alors s'embrasser à l'arrière. Ce soir, vouloir être à leur place, ce soir, sentir mon cœur qui bat. La chamade, la chamade, la chamade. À présent, la peur des adieux, pourtant vouloir être à leur place, pourtant sentir mon cœur qui bat. La chamade, la chamade.
Le Mac de l'été, toujours en direct du Festival d'Avignon. Mais que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme.
Depuis cet été... Ah bah bueno, super bueno. Si, génial.
La génération Erasmus va se régaler ce soir et revivre peut-être ses plus belles années avec l'auberge espagnole de Cédric Clapiche. Barcelone, la colocation avec des étudiants et des étudiantes. Une génération de comédiens avec lesquels on a grandi. Romain Duris, Judith Godrèche, Audrey Tautou. 17 ans déjà depuis la sortie de l'auberge espagnole. Et bientôt une mini-série de 8 épisodes. Mais pas question de rester bloqué dans la fin des années 90-2000. Non, le réalisateur veut parler de l'Europe d'aujourd'hui. Celle qui voit l'avènement du Brexit, de l'inquiétude environnementale. En attendant, rendez-vous ce soir sur C8 à 21h10.
Depuis cet été, de nombreux médias ont relayé le problème des maltraitances gynécologiques et violences obstétricales.
Deux salles, deux ambiances ce soir sur Arte à 22h40. Un documentaire bouleversant, libérateur et essentiel. Tu enfanteras dans la douleur. C'est le titre qui vous rappelle sûrement quelque chose. Une enquête sur les violences gynécologiques et obstétricales dont sont victimes les femmes lors de l'accouchement. Derrière ce projet, la réalisatrice Ovidie, elle ouvre son doc par un flot de témoignages difficiles à entendre et s'interroge sur les racines de ce mal et les alternatives à ne pas manquer, à rattraper. Il restera en ligne tout l'été. Merci Arte.
Christian, tu me manques. C'est toi qui joues de la musique. Je joue plus de musique, Christian.
Puis toi aussi, les repas de famille, ça te déprime. Viens au 104 à Paris pour assister à une représentation de Festen, mise en scène par Cyril Test. Tu pourras ainsi vérifier que ce type de réunion imposée finisse toujours mal et que finalement ta famille n'est pas si mal. Au fond, c'est ça le pouvoir cathartique du théâtre. Sur scène, des acteurs qui jouent devant vous. Jusque-là, rien de nouveau, sauf qu'ils tournent dans un film qui est projeté sur des écrans. Les caméras viennent traquer les moindres détails, l'hypocrisie sociale et le mensonge qui gangrène cette tribu. C'est jusqu'au 19 juillet. Sinon, il y a toujours le film du Danois Thomas Widenberg, sorti en 98.
Leïla Kaddou, le Mac de l'été sur France Inter.
Dans le Mac de l'été, j'essaie de vous faire une petite sélection des spectacles que j'ai aimé, vous inviter à y aller si vous êtes sur place ou en tout cas à les rattraper plus tard lors de la tournée. Blandine Savetier, à nous avec cette épopée débordante de suspense, ce héros qui erre depuis des années sur les mers dans l'espoir de retrouver son foyer, l'Odyssée d'Homère, finalement le premier feuilleton de l'histoire de l'humanité qu'on aurait envie de suivre comme les feuilletons qui sont diffusés sur France 2, sur France 3 ou sur les autres chaînes. Un feuilleton oral que les AED venaient compter à la population. Eh bien, le Festival d'Avignon renoue avec cette tradition orale, avec un rendez-vous très attendu, ce feuilleton de midi, l'Odyssée d'Homère en 13 épisodes. C'est hyper costaud, du lundi au samedi au jardin de la bibliothèque Secano. Là aussi, on a parlé d'une œuvre monumentale, d'un marathon de travail pour préparer. On va rentrer dans le cœur du dispositif ensuite, Blandine Savetier. Ce texte s'est imposé à vous.
C'était donc une demande du Festival d'Avignon, mais c'est une demande pour moi. Enfin, je l'ai fait très vite mienne parce que déjà c'est une épopée qui est très très belle. En plus, dans cette traduction de Jacotet. Et aussi parce que pour moi, j'ai commencé le théâtre par les tragédies grecques et donc par l'Odyssée. Donc en tant que comédienne. Donc c'était comme si je retournais à la source en travaillant cette œuvre. Et en plus, on croit connaître l'Odyssée. On en a tous des souvenirs, mais on le connaît mal. Et ça a été pour moi passionnant de me replonger dans cette œuvre et de suivre toutes les péripéties et le voyage initiatique d'Ulysse.
Un extrait justement pour vous donner une petite idée.
Athéna, dont l'œil étincelle, s'envola comme oiseau de mer. Elle avait redonné courage à Télémaque et ravivé en lui la pensée de son père. Quand il eut réfléchi, il s'étonna, ayant compris qu'un dieu était passé. Bientôt, pareil au dieu, il rejoignit les prétendants. Pour eux, chantait le très glorieux chanteur, et en silence, il l'écoutait. Il chantait le retour des Grecs, le retour d'Ilion que Pallas Athéna avait endeuillé.
C'est un feuilleton que vous pouvez suivre ici sur place au Festival d'Avignon ou chez vous. Il est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Il est disponible aussi en rattrapage, donc on peut se caler confortablement dans son jardin et se voir conter les aventures d'Ulysse. C'est la série de l'été, enfin, voilà, tout simplement. Pas la peine d'abandonner les plateformes payantes. Branchez-vous sur le Festival d'Avignon et le travail de Blandine Savetier. L'Odyssée, Blandine, c'est aussi l'histoire d'un aventurier rusé qui va à la rencontre de l'autre. En permanence, c'est pas simplement quelqu'un qui cherche à rentrer chez lui. Et dans votre façon de concevoir le casting, c'est aussi ça. Que des comédiens sur scène, mais plus ou moins expérimentés, j'ai envie de dire.
Oui, c'est un casting qui mélange des comédiens professionnels, enfin qui sont en cours de professionnalisation, puisque certains sont encore au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris et d'autres au Théâtre National de Strasbourg. Il y a une comédienne, elle, qui est professionnelle, qui s'appelle Julie Pilot. Souliman Silla aussi, qui est sorti du Conservatoire il y a 2 ans et qui jouait dans un de mes spectacles. Et puis, autour d'eux, il y a 12 à 15 amateurs tous les jours. Et donc, je trouvais en plus que c'était une très belle proposition parce que ça se passe au Jardin Sécano, c'est gratuit. On renoue en fait avec le théâtre citoyen, avec le théâtre qui se passe dans l'Agora. Mm-hmm. Et donc, du coup, cette proposition de mélange entre citoyens et acteurs professionnels se mariait bien pour l'Odyssée, et d'autant plus que c'est aussi bien les acteurs amateurs que professionnels sont issus, on va dire, de diverses cultures. Ils portent, j'aimerais bien le dire comme ça, parce que c'est toujours délicat de dire issus de la diversité culturelle et sociale. Pour moi, ils sont porteurs de récits manquants. Et ces récits manquants, on les entend pas assez souvent sur nos scènes de théâtre en France. C'est en train de venir. Et donc, du coup, on a des multilingues, puisqu'il y a des passages de l'Odyssée qui sont dits en arabe, d'autres en brésilien, d'autres en italien. En fait, j'ai aussi travaillé avec les langues d'origine de ces comédiens amateurs, puisque certains étaient aussi des primo-arrivants, donc il y a aussi du bambara.
Et ils ont fait leur entrée dans la langue française par ce texte-là. C'est quand même merveilleux comme
idée. Certains, oui.
Ouais.
Et ce qui est magnifique, c'est que parfois, quand on répète, ils suivent le texte en même temps en français. Parce que certains, ça fait 2 mois, en fait, qu'ils sont en France. Et ils apprennent la langue par cette langue qui est de toute beauté.
Déjà
donc ça,
côté,
c'est, ouais. Je trouve ça déjà, c'est extraordinaire. Et puis, c'est vrai, l'Odyssée, c'est aussi, comme vous l'avez dit, la rencontre de l'autre. Donc on le porte au plateau, on le dit bien fort, mais nous on le vit aussi au quotidien, puisque c'est vraiment la rencontre de l'autre entre ces citoyens amateurs et ces acteurs professionnels.
Et je résiste pas à cette envie de vous faire entendre ces langues qui se mélangent, qui nous racontent ce récit fondateur qui est le nôtre à tous.
Je l'enverrai à Sparte et à Pylos, ville des sables, s'enquérir du retour de son père, s'il est possible, afin qu'il en acquière bon renom parmi les hommes.
وانطلقت أورورا فربطت نعليها السحريتين على قدميها الجميلتين وحملت رمحها العظيم الذي تقطر المنايا من سنانه ووضعت تاجها المرصع على رأسها الكبير وأطلقت ساقيها للريح حتى كانت بعد لحظة على مقربة من قصر أوديسيوس.
Vous faites travailler la langue aussi de façon très exigeante, puisque le texte ne permet pas l'approximation. Comment est-ce que vous faites pour gérer justement ces différents niveaux de compétences et d'expérience entre les comédiens confirmés et ceux qui arrivent comme ça pour quelques jours et qui repartent?
J'essaie d'avoir la même exigence avec parce que pour moi, un acteur qui porte un texte, qu'il soit amateur ou professionnel, c'est un passeur. Donc c'est un acteur, il passe une langue. Et donc j'ai vraiment travaillé à ce qu'ils s'approprient dans leur être, profondément dans leur cœur, cette histoire. Mais surtout cette langue, parce que je souhaitais, c'est écrit en vers blanc, donc je souhaitais que l'on respecte le vers. Et je ne voulais pas que ça soit une lecture ennuyeuse ou trop précieuse. Donc tout le travail a été de le rendre très incarné, très charnel, en même temps, et de le porter. Donc il y a quelque chose aussi parfois de la profération, mais c'est tout le corps qui le porte. Ça demande un engagement, une musculature, un souffle, et ça a été tout mon travail avec eux. La différence, c'est que les acteurs professionnels ont des morceaux bien plus longs à porter, les amateurs, c'est plus court. Mais je ne les lâche pas, mais ça a été, je crois que pour eux aussi, ça a été merveilleux que je sois exigeante. C'est pas parce qu'ils sont amateurs qu'il ne faut pas les faire travailler. Ils attendent ça d'ailleurs. Mm-hmm. Ils attendent qu'on les emmène à un endroit haut d'eux-mêmes, qu'on pousse dans les limites. Et
qu'on les regarde aussi.
Oui, qu'on les regarde. Mmh. Et donc, c'est aussi tout un travail de comment s'adresser, parce que des gens qui démarrent ne savent pas au départ comment s'adresser à l'autre, comment s'adresser à un public. Comme on est en lecture performance, ils s'adressent pas. Oui, parfois ils se regardent, mais ils parlent. Par exemple, quand Athéna parle à Ulysse, elle parle à un Ulysse imaginaire dans le public, alors que le vrai Ulysse est à côté d'elle. Donc ça a été aussi tout ce travail de mini mise en scène, parce que c'est du théâtre de plateau. On a juste un texte et des pupitres et j'allais dire le principal, un poème.
Un poème et peut-être des vocations, des envies que vous allez susciter, un rapport à la langue aussi, à cette envie d'aller creuser, d'aller chercher, de dire le texte, de revenir à cette tradition orale. Ça aussi qui est très beau, c'est que l'Odyssée, c'est un texte qu'on parcourt des yeux, mais est-ce qu'on a déjà entendu résonner la langue d'Homère, ou en tout cas celle de Jacoté? Peut-être jamais.
Je ne crois pas. En plus, c'est une façon de revenir à la source, parce que l'Odyssée était chantée au départ et c'était vraiment mais comme les troubadours, c'est-à-dire ce n'était pas écrit. Pendant 2 siècles et demi, l'Odyssée a été une épopée orale qui se transmettait, on va dire, d'oreille à oreille, selon même les différents pays, et ça a été mis par écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ, alors que ça a été Homère l'aurait écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et on ne sait pas d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui travaillent sur cette question. On ne sait pas qui est Homère. Certains historiens pensent que Homère en fait était une femme et non pas un homme. Donc c'est et je peux comprendre d'ailleurs qu'on puisse savoir ce
pourquoi. Dans le texte, qu'est-ce qui vous mettrait sur cette piste-là? C'est intéressant, c'est une relecture de l'Odyssée par Blandine Savetier.
Parce que les femmes, contrairement à l'Iliade, par exemple, où les femmes sont plus des potiches, dans l'Odyssée, les femmes ont vraiment...
Elles sont agissantes.
Ouais. Elles sont agissantes, elles ont du pouvoir, elles ont une vraie place. Le double d'Ulysse, c'est Pénélope, qui, avec ses ruses, va mettre à distance tous les prétendants. C'est Athéna qui mène la danse. Donc là, c'est une déesse femme. Oui, certes, une déesse qui est née de la tête du père, donc qui n'a pas été enfantée. Je pense aussi à Calypso, qui retient Ulysse pendant 7 ans dans son île, qui lui promet l'immortalité et la beauté éternelle. Et c'est magnifique parce que Ulysse refuse, il préfère vieillir, on va dire perdre ses charmes, mais retourner à Ithaque, et il dit aussi pour avoir une mémoire. Il comprend que l'immortalité chez Calypso ne lui donnera pas la mémoire. Et c'est Athéna qui va le sauver, donc c'est encore une femme. Je pense aussi à Nausicaa, donc une jeune adolescente. Quand il arrive dans l'île des Phéaciens, il arrive mais déchiré à nu. Vraiment, il arrive nu parce qu'il a Poséidon, donc se venge et lui fait vivre les plus grosses tempêtes. C'est pratiquement des tsunamis. Donc tous ses compagnons sont morts. Il arrive sans rien, comme un mendiant. Et une jeune fille l'accueille, toutes les autres suivantes fuient à la vue de cet homme, complètement hirsute, plein de sang, en haillons. Et elle, en fait, la devise de cette île, c'est l'autre, c'est la question de l'hospitalité. Et peut-être qu'elle voit derrière ce gueux, elle voit que peut-être c'est un dieu.
Mm-hmm.
Mais surtout, elle dit aux suivantes, elle dit, mais l'autre, l'étranger, quel qu'il soit, même si c'est un mendiant, nous devons de l'accueillir et de faire respecter les devises de notre île. Et donc, elle va l'accueillir comme un roi. Et elle ne sait pas que c'est un roi. Et elle va lui donner tous les codes pour qu'il puisse se faire accepter par sa mère, parce que chez les Phéaciens, celle qui a la loi, c'est une femme, et ce n'est pas le roi.
Vous voyez, je pense que vous allez tous vous ruer demain suivre le feuilleton mis en scène par Blandine Saftier et toute sa troupe, et aller observer aussi tous ces comédiens de divers horizons dans leurs pratiques, en lien avec ce texte fondateur. Ça pourrait vous donner des idées, Romain, peut-être d'aller faire une performance autour de l'Odyssée, parce que là, il y a pas mal de personnages à incarner aussi, hein. Ouais, ça peut être un concept.
Oui, c'est très beau, en tout cas, effectivement. Et cette attention aux femmes, nous aussi, on tenait vraiment à la voir, et des personnages comme Arissi,
oui.
Exactement, qui d'habitude sont des fois un petit peu laissés de côté. Je trouve que c'est très important de les faire entendre et voir la parole véritable que ces femmes ont face au pouvoir. On est dans les mêmes problématiques alors qu'on n'est pas du tout dans le même siècle.
Il est venu le temps de rembobiner dans cette émission. Tous les jours, on fait revivre une voix qu'on a envie d'entendre dans le transistor du Festival d'Avignon et de mes trois invités, la voix d'un metteur en scène. C'est Wajdi Mouawad sur la tragédie grecque et le désenchantement de sa génération.
J'avais été frappé par la manière avec laquelle dans l'Iliade et l'Odyssée, aucun personnage ne doute de l'enchantement du monde. Aucun ne s'étonne d'avoir Athéna en face de lui, quoi. Il y en a aucun qui dit Athéna, non, mais c'est pas possible, vous êtes déguisé. Non, c'est Athéna, tout le monde est d'accord et personne ne s'étonne. Et après, de voir comment cet enchantement s'effondre, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, parce que peut-être parce qu'au moment où je lis ça, je sens en moi s'effondrer cet enchantement. Je découvre, je ressens que le monde au fond n'est pas magique comme j'ai pu le croire. Il faut dire que ça correspond aussi à ce moment-là. C'était la guerre en Bosnie. C'était alors que je venais de sortir de la guerre du Liban. Il y avait la guerre en Iran, en Irak. Bientôt, ça sera le Rwanda. Enfin, on s'en rend pas compte, mais la chute du mur de Berlin. J'ai 19 ans, 20 ans à peu près. Puis l'immense espoir que ça avait fait surgir et l'effondrement que quelques années après avec. On pourrait dire la victoire d'un libéralisme d'une violence folle qui s'abat sur ces pays de l'Est qui étaient si si forts artistiquement, qui étaient si puissants et qui petit à petit vont se faire gruger de plus en plus. Bref, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec quoi? Avec Trump aux États-Unis. Enfin, et je veux dire la question de l'enchantement pour ma génération. Alors peut-être que c'est la même chose pour toutes les générations. J'en sais rien, mais en tout cas, je peux dire que si je regarde la courbe de la notion de l'enchantement de ma génération, celle qui est née en 68 jusqu'à aujourd'hui, elle est tragique. C'est-à-dire, on est face à des bribes, à des fragments. Et l'enchantement, il faut se le reconstruire à bout de bras. Comme il faut être des haltérophiles, quoi. Il faut le lever, quoi. Il faut faire de l'épaulé jeté de l'enchantement pour arriver entre nous à se refaire croire à quelque chose qu'on a l'impression que nous n'avons pas connu, mais que nos parents semblent avoir tous connu. Mais c'est peut-être une illusion. Sans doute, c'est une illusion. Alors, quand je lis les Grecs, je suis ramené à cette question de l'enchantement.
Voilà la puissance des textes fondateurs. On va vous libérer, Blandine Saftier, parce que vous avez pas mal de pain sur la planche pour la représentation de demain. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous et au revoir. Et je vous invite vraiment à venir voir notre Odyssée de l'éternel voyage et de la rencontre de l'autre.
Merci, Blandine Saftier. Merci. Trouver l'enchantement, en tout cas puiser dans les textes aussi pour aller à la rencontre de l'autre, celui qui est exclu, celui qui est banni, c'est aussi dans une certaine mesure l'ambition de Macbeth philosophe Enzo Verde, pardon, j'ai du vent donc j'ai mes feuilles qui volent, c'est les conditions du direct. Macbeth philosophe avec Olivier Py, vous l'avez esquissé tout à l'heure rapidement, ce texte-là dont on connaît rapidement les contours qu'on va rebrosser. Mais c'est surtout l'ambition que vous avez de ce projet, la direction que vous avez pris, à savoir ne pas faire interpréter ces rôles par n'importe qui.
Non, alors... Le fait est que c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on se dit pas on va créer une pièce et du coup avec qui on peut les créer, on va aller et si on les crée avec des détenus, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est on fait un atelier, ok, et maintenant et si on crée une pièce.
Ouais. C'est déjà un processus qui était déjà à l'œuvre.
Bien sûr, ça fait 5 ans qu'on travaille au Ponté avec Olivier et ça fait 5 ans que les choses évoluent et prennent de l'ampleur petit à petit. On a commencé, moi, quand je suis arrivé au tout début, ils étaient deux. Mmh.
Deux prisonniers qui voulaient bien participer aux ateliers.
Voilà. Ouais. Et puis après, la semaine suivante, ils étaient plus nombreux. Et puis la semaine suivante, ils étaient plus nombreux. Et puis après, on avait fait un spectacle où on avait juste une chaise. Et puis après, on a fait un spectacle où on avait un rideau. Et puis après, on a fait un spectacle où on avait une table. Et les choses prennent de l'ampleur. Et aujourd'hui, on est en bifrontal avec une table au milieu, une scène de part et d'autre, deux toiles peintes, enfin...
Quelle est l'idée, même si on l'aperçoit, de se dire, voilà, on va amener la culture dans tous les lieux, et la prison est un de ces lieux.
Eh bien, il faut savoir que l'initiative... Alors, bon, le partenariat entre le Festival d'Avignon et la prison du Ponté date d'il y a 15 ans, donc il est assez vieux et assez ancré. Mais l'initiative du premier stage et du coup de ces ateliers, c'est les détenus. C'est la demande des détenus de dire un jour Olivier Pie est venu faire la présentation du Festival d'Avignon là-bas et puis il y en a un qui dit vous voudriez pas venir faire un atelier chez nous?
Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et les représentations, alors parlons-en, les rôles distribués, le travail aussi sur la langue, c'est un peu la même problématique qu'avec Blandine Safier, c'est que vous avez affaire à des comédiens qui ne sont pas des professionnels, que vous faites travailler au cours de l'année, comment ça s'organise?
Eh bien, on travaille deux fois par semaine, de novembre à peu près à juillet, et puis on attaque directement, on choisit une pièce en amont et puis on attaque directement la pièce parce que ce qui est exercice, tout ça, c'est pas assez concret pour eux.
Donc il faut
directement du texte, directement le mettre dans les jambes et faire l'expérience du texte en le disant. Mmh. Non pas en l'analysant autour d'une table et en surlignant, voilà, mais directement avec les jambes, avec la voix, avec le corps, et puis on comprend petit à petit les choses. Il y a encore deux semaines, je dis au comédien qui joue Macbeth, ah mais c'est ça que ça veut dire en fait.
Ouais. Qu'est-ce
et lui,
que ça
Et lui par contre me dit, ouais, bah oui, j'avais compris depuis le début.
Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça suscite chez eux aussi? Qu'est-ce que ça déclenche?
Il faut savoir que c'est des gens qui ont toujours considéré que la culture ne les concernait pas. Mmh. Et là, ils sont dans une situation où ils se disent, ah mais en fait, ça me parle. Je veux dire, le fait de jouer, ça me plaît, et puis ce que je suis en train de dire, ça me concerne. Donc en fait, oui, je suis à ma place. Et donc du coup, on arrive, vous souleviez tout à l'heure la question du jeu, de comment on les fait travailler. On arrive avec des gens qui n'en ont quasiment jamais fait. Mais ils arrivent sans aucune barrière, aucune règle, à jouer des rôles, bon, quand même, assez lourds à porter. Macbeth, Lady Macbeth, c'est des rôles très lourds, mais ils y vont avec une énergie et une vitalité, qui est sans transition, enfin, sans doute. C'est-à-dire qu'on y va à fond et alors que ce soit dans la tristesse et dans la joie, on y va à fond et on est plus dans jouer sur les extrêmes que jouer sur les nuances, les choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de très très viscéral.
Alors voilà, ça c'est une autre envie de ma part de vous parler aussi du Festival d'Avignon autrement. On a parlé de la Cour d'honneur rapidement, mais je pense aussi que c'était important de faire un éclairage sur le centre pénitentiaire d'Avignon le Ponté et sur cette initiative qui en effet n'est pas nouvelle, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Merci beaucoup Enzo Verde d'être venu en parler au micro de France Inter. Je ne sais pas, et je m'étouffe, si vous êtes de grands voyageurs dans l'âme, dans le Mac de l'été, on aime les voyages immobiles. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener en Italie. Pas de bilan carbone détestable. C'est Patti Pravo, la Bambola sur France Inter.
tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no, no ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste e stanca. Pensi solo.
Un petit air d'Italie à l'heure de l'apéro, ça fait jamais de mal sur France Inter. Merci à tous mes invités du jour. Romain Darol, merci Enzo Verde, merci d'avoir été avec nous. Blandine s'est échappée juste avant. Merci au public également, en direct de la cour de l'ancienne université Pasteur. À toute mon équipe, Hélène Bizio à la réalisation, Christophe Boudin, Olivia Branger, Nicolas Depagraf à la technique, Marie-Laurent Chéry, Raphaël Grimmarki, sans oublier mes deux petites princesses stagiaires, Anouk Valverde et Maëlène Loaec.